Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, le MacPol.
Vincent Parisot.
Eh oui, merci Alexandre. Le MacPol, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL, avec ce soir l'essentiel du grand jury de Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Le reportage MacPol consacré à la campagne virtuelle de Jean-Luc Mélenchon. Un système de meeting à distance qui pourrait peut-être survivre à l'épidémie. Et puis avec Jean-Mathieu Pernin, 4 jours après la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, eh bien on ira fouiller dans les archives.
RTL, dimanche soir,
le MacPol, Vincent Parisot.
Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, était donc à la mi-journée l'invitée du grand jury RTL, Le Figaro et LCI. Et la numéro 2 du ministère de l'Intérieur est, bien sûr, revenue sur les affrontements et les dégâts d'hier après-midi lors de la manifestation parisienne.
Le ministère de l'Intérieur fait tout ce qui est en son pouvoir et maintient l'ordre public. Il y a eu un engagement très fort des policiers et des gendarmes. Moi, je voudrais d'ailleurs à cette occasion adresser mes voeux de rétablissement aux 67 policiers, policières et gendarmes qui ont été blessés, parfois gravement, au cours de ces manifestations et saluer leur engagement pour maintenir la paix et l'ordre public.
La semaine dernière, il y avait déjà eu des black blocs et déjà des réactions politiques. Marine Le Pen, par exemple, a parlé de complaisance, notamment de la part du gouvernement vis-à-vis des black blocs. Vous répondez quoi à ceux qui vont redire la même chose aujourd'hui?
Oui, ils redisent la même chose parce qu'on est en fait face à des oppositions qui répètent la même chose. Donc on sait très bien que à l'extrême gauche, on va dire que le gouvernement est trop dur, qu'il y a un maintien de l'ordre qui est trop violent, trop difficile, trop sévère, etc. Et à l'extrême droite, on va dire qu'il y a des black blocs et c'est scandaleux. Et oui, bien évidemment, le gouvernement travaille contre les black blocs. Les black blocs, c'est un phénomène qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années à l'étranger et en France. Il y a un travail de renseignement particulièrement souterrain qui se fait pour démanteler ce type de réseau et un travail
visiblement inefficace, ce travail.
Non, je ne vais pas laisser dire qu'il soit inefficace. C'est un travail très fort, mais vous savez, les manifestations, elles ont évolué. Pardon, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps, quand j'étais petite, dans les années 80, dans des manifs. Et dans les manifs dans lesquels j'allais avec mes parents, il y avait des services d'ordre qui étaient organisés. Et il y avait des gens qui faisaient des rideaux, qui se tenaient les coudes et qui empêchaient des personnes extérieures de rentrer dans les manifestations. La particularité depuis quelques années des manifestations, c'est qu'elles ne sont plus organisées. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Il y a de moins en moins de services d'ordre dans les manifestations. En fait, le contexte d'organisation des manifestations, il n'est pas le même en 2020 qu'en 1992.
Voilà, le service d'ordre n'est plus vraiment assuré aujourd'hui dans les manifs, soulignait Marlène Schiappa dans ce grand jury. Marlène Schiappa qui a bien sûr été interrogée sur l'expression « violence policière » employée par Emmanuel Macron, ce qui a fait vivement réagir les syndicats de policiers. Et donc on lui a demandé si elle aussi elle avait peur d'employer cette formule.
C'est pas une question de peur ou pas peur, et je veux dire violence policière, et il y aura une dépêche AFP, Marlène Schiappa dit qu'il y a des violences policières, c'est pas le sujet. Le sujet, quel est-il? C'est que quand on parle en général de violence policière, on dit ça en général dans le monde, quand il y a des États qui ont une police violente structurellement, qui fait des arrestations arbitraires, etc., etc. Ça n'est pas le cas en France. En France, il y a un usage légitime de la force pour garder la paix et pour maintenir l'ordre du côté des forces publiques. Mais maintenant, oui, il y a aussi des violences inadmissibles, comme celle qu'on a vue lors de l'évacuation du campement de tentes d'exilés Place de la République, ou comme l'agression du producteur pour laquelle tout le monde s'est absolument indigné.
Et quand ça arrive, ça doit être proportionné, Marlène Schiappa. Et en l'occurrence, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que certains de nos concitoyens estiment qu'elle est disproportionnée.
Et c'est pour ça que je vous dis, quand ça arrive, et je viens de vous donner 2 exemples concrets, quand ça arrive, il faut qu'il y ait des sanctions très fermes vis-à-vis de ceux qui commettent ces agressions, ces violences. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas ma police. La police qui fait un croche-pied à un homme SDF exilé qui dort dehors, ce n'est pas la police que j'ai envie de défendre.
Voilà, ce n'est pas ma police, cette police-là. Dis donc, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, lors de ce grand jury au cours duquel il a bien sûr été beaucoup question de la loi contre les séparatismes. Un texte qui prévoit notamment la scolarisation obligatoire de 3 à 16 ans et donc la fin de l'école à la maison pour lutter contre les déscolarisations, l'islam radical. Visiblement, écoutez, ce n'est pas encore gravé dans le marbre pour des raisons constitutionnelles.
Le président de la République et Jean-Michel Blanquer ont déjà indiqué qu'il y aurait des dérogations, notamment pour les raisons de santé. Par exemple, vous avez un enfant qui est en situation de handicap lourd, pour lequel une AVS ne suffit pas pour le scolariser. Il pourra bien évidemment poursuivre l'instruction à domicile. Quant au reste, il y a des consultations. Le Conseil d'État s'est réuni le 3 décembre. Il doit nous remettre là, dans les heures ou jours à venir, un avis qui sera rendu public et nous dira notamment s'il considère que c'est inconstitutionnel ou pas. Et bien évidemment, nous en tiendrons compte d'ici le 9 décembre et la présentation au Conseil des ministres.
D'ici mercredi.
Voilà, donc il faut peut-être s'attendre sur cette question de l'école obligatoire à un recul plus ou moins forcé ou à une modification du texte. Et c'est aussi le cas sur la question du contrat d'engagement républicain que l'État entend faire signer aux associations subventionnées. Dans le secteur associatif, certains parlent de chantage et de mise en cause du principe de la liberté d'association.
Nous entendons là aussi ce que disent les élus, les associations. Et donc je vous annonce que je lance deux grands cycles de concertation, l'un auprès des représentants des associations avec ma collègue Sarah El Haïry pour écouter justement ce qu'ils ont à nous dire et retravailler ce texte, et l'autre avec les représentants des élus et des collectivités avec ma collègue Jacqueline Gouraud qui est ministre de la Cohésion des Territoires. Nous allons recevoir entre le 9 décembre et le passage du texte au Parlement les grands représentants des élus locaux, régionaux, départementaux, etc. pour leur présenter le texte tel qu'il est et pour prendre aussi leurs propositions de modification autour de la définition de ces valeurs de la République.
Peut-être que vous sentez les oppositions monter et vous éprouvez le besoin de les désamorcer.
Moi, j'écoute, encore une fois, comme sur l'article 24, comme sur l'enseignement à domicile, moi je pense que c'est important d'écouter les Français et d'écouter les experts.
RTL, dimanche soir,
le MacPol, Vincent Parisot.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. On y revient avec celui qui a mené ce débat. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir Vincent.
Alors Marlène Schiappa, elle représente l'aile gauche de La République En Marche, mais on peut dire qu'elle ne sort pas ou très peu du cadre.
Oui, enfin, son historique de gauche, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop entendu là. Hein. C'est vrai qu'elle se met dans les pas de Gérald Darmanin, elle ne veut pas en faire entendre une petite musique différente. Juste quand même à un moment donné, quand elle a dit que vu son parcours, elle n'était pas forcément un soutien des forces de l'ordre. Là, c'est vrai que ça a un petit peu surpris. Mais sinon, tout le reste de son discours est un discours pro-Macron, de défense du président de la République. C'est vrai qu'elle ne cesse de le nommer, le président de la République. Elle est vraiment un centurion de la Macronie.
Bon petit soldat de la Macronie.
Bon petit soldat de la Macronie. Après, honnêtement, c'est l'une des ministres dont on parle le plus. C'est ces femmes qui, c'est vrai, dans ce gouvernement, dans cette Macronie, sont assez inexistantes. Eh bien, Marlène Schiappa existe. Alors, pour ça aussi, elle est contestée. Quand vous existez en politique, vous devenez forcément clivant. Ce n'est pas toujours facile à vivre pour elle, elle le dit, elle l'a dit aussi sur le plateau, on a bien senti que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lui avait déplu.
Son retard, tout à fait,
et elle s'en est expliquée, mais c'est vrai qu'elle a une forte personnalité, mais c'est une personnalité qui sert Emmanuel Macron en même temps, parce que c'est vrai qu'elle a fait parler de la cause des femmes, et que quand elle a une argumentation, on l'entend, au risque que parfois, eh bien, de trahir ses idéaux, et de trahir ses convictions du début, notamment celle sur le voile.
Merci Benjamin.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Le reportage MacPol à présent. En 1974, la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing avait frappé par sa nouveauté. Et bien près de 50 ans plus tard, la communication politique est toujours en quête de renouvellement. En 2017, Jean-Luc Mélenchon avait créé l'événement, vous en souvenez peut-être, avec ses hologrammes, désormais officiellement candidat pour la présidentielle de 2022. Et bien le leader de la France Insoumise a tenu son premier meeting la semaine dernière et là encore, eh bien, il a voulu surprendre avec ce qu'on appelle la réalité augmentée, une technologie très utilisée dans le sport ou les spectacles, mais pas encore en politique. Alors, à l'heure où de plus en plus de Français s'en désintéressent, le meeting numérique sera-t-il une planche de salut pour les politiques ? Enquête Marie-Bénédicte Allaire.
Merci d'avoir accepté ce rendez-vous.
Oui, ce meeting en réalité augmentée, c'est selon l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, une première mondiale.
Un petit exemple, voyez plutôt.
Et hop, apparaît le lapin blanc d'Alice. Effet de surprise garanti. Mais pour l'ancienne communicante de François Fillon à Matignon, Myriam Lévy, il y a là un côté gadget.
Il est en discours avec des illustrations de réalité virtuelle. Mais finalement, ça ne change pas vraiment la forme de son intervention.
Reste que la France Insoumise a rempli son objectif, créé l'événement, et qu'elle revendique un total de 225 000 vues pour 50 000 euros, moitié moins cher qu'un meeting classique.
Mais d'ailleurs, crise sanitaire oblige, Marie-Bénédicte, le numérique n'est-il pas devenu incontournable en politique ?
Eh bien, les réseaux sociaux se sont imposés dès 2017. Ce qui a changé, c'est que les états-majors politiques comprennent mieux les immenses possibilités du numérique. Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement National, le reconnaît.
Oui, on va réfléchir à de nouveaux formats. Tous les partis politiques ont été obligés de s'adapter. Pas seulement, d'ailleurs, vu le contexte sanitaire, mais aussi pour capter l'intérêt de nouveaux électorats, comme évidemment les jeunes.
200 000 vues revendiquées par le RN pour son meeting numérique du 1er mai dernier. Un autre est en préparation. Alors, aucun parti Ciotti ne sera en reste, c'est sûr. Et pourtant, Elliot Lepers, spécialiste du numérique en politique, ne croit pas à la disparition des meetings classiques.
Un meeting, c'est avant tout des gens qui se rassemblent, qui se voient, qui voient qu'ils sont nombreux et nombreuses. Et c'est une énergie partagée parce qu'on est ensemble. Et cette énergie-là, on ne la remplace pas avec une vidéo en direct.
C'est finalement rassurant. La réalité virtuelle n'est pas encore totalement prête à remplacer l'humain.
Et visiblement, c'est tant mieux. Reportage MacPaul, signé Marie-Bénédicte Allaire.
RTL, dimanche soir.
Le MacPaul, Vincent Parisot.
Et comme chaque semaine, dans le MacPaul, on ouvre les archives avec Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir Jean-Mathieu.
Bonsoir.
Évidemment, cette semaine a été marquée par la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. On a beaucoup parlé de VGE, le réformateur, mais il y a aussi quelque chose qui le distingue de ses prédécesseurs. C'est la communication. Et évidemment, on voit ça avec vous.
Oui, depuis l'annonce du décès de Valéry Giscard d'Estaing, mercredi dernier, on a vu beaucoup d'images, du Monopole du cœur au revoir, en passant par l'accordéon et Claude-François Élysée, et même à Courchevel en 1975.
Pour les spécialistes, le président pratique un ski un peu trop raide. On lui reproche un manque de souplesse et une trop grande recherche de vitesse pure. C'est peut-être une question de tempérament. Ne se corrige pas, qui veut.
Voilà, mais bien avant tout ça, Giscard, c'est l'homme d'un film sur sa candidature de 1974. À l'époque, ça n'existait pas, VGE, on le sait, était fasciné par Kennedy. Et justement, il y avait un documentaire sur Kennedy qu'il suivait lors de son accession au titre de candidat démocrate aux présidentielles américaines de 1960. Giscard veut alors la même chose, demande au photographe Raymond Depardon de réaliser un long métrage sur sa campagne. Depardon va filmer directement, au plus près, sans fioritures et même des scènes inimaginables. Par exemple, Giscard réunit son équipe et va leur expliquer comment gagner un scrutin élyséen. C'est une séquence sans trucage.
C'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre. Parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique d'abord que serait de ne rien faire de beaux discours, etc. À laisser le courant passer dans ce type est rassurant, il est très convenable, il est gentil, on parle bien. Voilà. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là.
Voilà, c'est le ne rien faire gagnant. Un film voulu d'ailleurs par Giscard, mais il va refuser de le laisser sortir sur les écrans.
Et c'est ça, voilà, on y voit tout. Depardon, on laisse traîner sa caméra dans les meetings, dans les réunions, dans les moments de solitude, comme celui où Giscard apprend qu'il est élu. Il prend sa voiture, donc, tout seul dans les rues de Paris et se rend sans policier à son QG, accessible comme n'importe qui. Mais une scène va troubler le président centriste, celle où il est colère contre Michel Dornano, fidèle soutien et maire de Deauville. Celui-ci est à la télé juste avant que l'on connaisse le résultat d'élection et Giscard est furieux.
19h59.
Juste un mot, je suis en train de regarder la télé et j'avais demandé à Michel Dornano de ne pas aller.
Je vais maintenant.
Ah, justement. Pas seulement. Voilà, je suis obligé de regarder maintenant le jour, je te rappelle tout à l'heure.
Au moment.
Ben oui, je ne sais pas. Mais enfin, je lui ai demandé de payer.
Il avait demandé de payer.
Exactement. VGE verra ce film 4 fois et fera tarder sa mise à l'écran, devenant le symbole du film censure. Giscard avait payé 100 000 francs à l'époque pour ce documentaire, mais une chose l'avait marqué, explique Raymond Depardon sur LCI.
Il y a des moments effectivement très intimes, un peu comme ça, à la caméra, au grand angle en plus, très proche. C'est la première fois qu'on peut filmer comme ça, avec le son synchrone. C'était nouveau parce que personne ne se voyait. C'était un peu comme le magnétophone à une époque, c'est-à-dire que c'était un peu, ça apparaissait comme violent de s'entendre et dans la continuité surtout.
Voilà, apparemment Giscard n'a pas supporté d'être montré violent et donc finalement VGE accepte que le film sorte en 2002. Le titre en sera 1974, une partie de campagne. L'ex-président aurait préféré, paraît-il, la victoire en chantant. Avec l'âge, on ne se refait pas modeste.
Jean-Mathieu Pernin. Et c'est ainsi que s'achève ce MacPaul, avant évidemment de le retrouver la semaine prochaine. Et dans un instant, on accueille Alain Bougrain-Dubourg qui va refaire la planète avec nous. À tout de suite.
Vincent Parisot,
RTL dimanche soir.